Donc effectivement, je me suis proposé dans cette communication d'aller voir dans les chroniques du XVe siècle et un peu du XIVe aussi d'ailleurs, et de façon un peu imprudente en ne définissant pas quel type de chronique j'irai voir, ce que l'on pouvait trouver en somme sur la notion de lignage dans des textes, donc qui sont évidemment des textes narratifs. Je savais pertinemment que je n'allais pas trouver des développements théoriques sur ce qu'est un lignage ou ce qu'il n'est pas, mais je me suis dit que je pourrais peut-être trouver quelques éléments, surtout à ces époques de crise, donc qui sont nombreuses au XVe siècle, donc ces conflits civils qui marquent le règne de Jean II, le règne d'Henri IV, etc. Je dois dire que j'étais un peu. Je suis resté un peu sur ma faim, mais peut-être parce que justement je n'ai pas pu consulter tous les textes que je voulais consulter. Donc j'ai un petit peu bifurqué de façon à rester le plus possible dans le sujet de cette journée d'études, dans mes réflexions. Alors mon point de départ, c'est ce qui m'avait donné l'idée de ce sujet. C'était la lecture de certains extraits d'une chronique, de la chronique écrite par quelqu'un dont on vient de parler avant la pause, la chronique de Pedro López de Ayala, enfin en l'occurrence la chronique de Pierre Ier, de Pedro López de Ayala. Dans un travail que j'ai effectué sur ce chroniqueur il y a quelques années, j'avais trouvé des passages qui paraissaient un peu contradictoires et qui tournaient autour de l'idée effectivement, d'une possible solidarité de lignage autour du lignage des Alvarez de Toledo et je ne sais pas si je peux parler d'un lignage en l'occurrence, des descendants de Fernand Gomez de Toledo. Dans un extrait de la chronique de Pierre Ier, donc, qui concerne l'année 1354, et que je vais pouvoir vous lire, c'est le seul texte que je lirai de toute façon. Donc je vais me permettre de le lire même s'il est un petit peu long. On voit tous ces gens, en somme, de Tolède, s'unir contre un autre lignage, qui est le lignage des Tenorio. Et cela m'avait frappé, d'autant plus que ensuite j'avais trouvé des passages qui semblaient contredire complètement cette possible solidarité entre donc les Alvarez de Toledo et les descendants de Gomez de Toledo. Je lis d'abord le passage qui m'avait suggéré cette idée de solidarité. Todos estos señores que dicho habemos que estaban en Medina del Campo obvieron su acuerdo de enviar sus mensajeros al rey, los cuales fueron Pero Carrillo, hijo de Gómez Carrillo de Mazuelo, y Juan González de Bazán y Pero González de Agüero, por traer algunas buenas maneras de sosiego en estos fechos. Estos caballeros llegaron a Toro, donde el rey estaba, y hubo ahí algunos caballeros de los que estaban con el rey, que los querían bien, y llevarlos a sus posadas, por les hacer honra que posasen con ellos. Y sobre esto confiaban cuáles de ellos los llevarían. Y Ferran Álvarez de Toledo quería llevar consigo al dicho Pedro Carrillo, que era su amigo, y Alfonso Jufre Tenorio, que no quería bien al dicho Ferran Álvarez, quería llevar al dicho Pedro Carrillo, extrañógelo. Y sobre esto oyeron sus palabras los dichos Ferran Álvarez y Alfonso Jufre Tenorio, en manera que Alfonso Jufre cuidó dar de un cuchillo pequeño al dicho Ferran Álvarez. Y sobre esto se volvió un ruido asaz grande. Y Juan Alfonso de Benavides, justicia mayor de la Casa del Rey, que era pariente de Alonso Jufre, ayudóle, y eso mismo le ayudó Pero González de Mendoza. Y otros ayudaron a Ferran Álvarez de Toledo, que le ayudó Gutiérrez Ferrandez de Toledo y otros caballeros asaz. Y fueron y feridos Men Rodríguez Tenorio, hermano del dicho Alfonso Jufre, y Juan Alfonso de Benavides, y fue muerto un sobrino de Gutiérrez Ferrandez de Toledo. Y por esta razón se partieron de la corte del rey y se fueron para los otros señores Juan Tenorio, repostero mayor del rey, y Men Rodríguez Tenorio y Alfonso Jufre Tenorio, sus hermanos, por cuanto el rey se mostró por bandero aquel día de la pelea de Gutiérrez Fernández de Toledo o hubieron miedo del rey de estar allí? Y desde que estos caballeros se partieron del rey, yo el rey la repostería que tenía Juan Tenorio a Gutiérrez Fernández de Toledo, él era el Guatzilazgo que tenía Alfonso Jufre Tenorio, yo le a suerte y es de Meneses, pariente del dicho Gutiérrez Fernández de Toledo. Donc il m'avait semblé qu'il y avait une espèce de solidarité entre donc, des membres d'un même lignage ou deux lignages apparentés, j'avoue que j'avais des doutes, mais cette solidarité était remise en cause un peu plus loin lorsque le chroniqueur évoquait la mort de Gutiérrez Fernández de Toledo, précisément, qui est exécuté sur l'ordre de Pierre Ier, qui le soupçonne de trahison, en 1360. Puisque les deux hommes qui se chargent de cette exécution, on trouve le grand maître de l'ordre de Saint-Jacques, Garci Álvarez de Toledo, donc qui est le frère du Ferran Álvarez, dont Gutiérrez Fernández et ses parents avaient pris le parti quelques années auparavant. Donc de deux choses l'une, ou bien la solidarité de lignage ne fonctionnait pas ou ne fonctionnait pas toujours, le service du roi pouvant être un élément qui venait se placer au-dessus de cette solidarité, ou bien les Toledo en fait ne constituaient pas réellement un lignage. Je suis toujours dans le doute concernant ce passage. Fernand Pérez de Guzmán, justement, qui est lui-même un descendant de Gutiérrez Fernández, enfin de Fernán Gómez de Toledo, qui est le père de Gutiérrez Fernández de Toledo, et aussi le cousin du comte d'Albe, qui sera plus tard élevé au rang de duc, mais du comte d'Albe, qui donc appartient lui aux Álvarez de Toledo. Donc je continue à ne pas très bien savoir s'il y a là une vraie solidarité de lignage ou simplement l'effet d'une origine géographique commune. Mais en tous les cas, c'était le point de départ de ma réflexion. Et donc je suis allé voir ce que l'on pouvait trouver sur les lignages dans les chroniques. J'avoue que, donc, comme je le disais, très souvent l'allusion au lignage se limite à l'emploi du mot. Comme dans la Suma de Reyes du grand dépensier de la reine, texte que je connais bien, où lorsqu'est évoquée la figure de Sancho Sánchez de Rojas, qui est l'un des porte-parole en quelque sorte de l'auteur au moment d'évoquer le décès du roi Alphonse XI, on a cette définition, un buen caballero de un buen linaje de Castille. Mais souvent on ne va pas au-delà. Et on ne nous explique pas, bien entendu, ce qui se cache derrière cette formule topique. Donc, le monde des lignages dans les chroniques m'a apparu comme un monde assez mouvant, où il est même assez difficile de savoir où s'arrête en quelque sorte un lignage, où commence un autre, en particulier avec justement toujours les Toledo, puisque on sait que beaucoup de Toledo ont pris plutôt le nom de Guzmán, parce qu'ils étaient aussi parents des Guzmán, et que, évidemment, Guzmán est un lignage qui est apparenté à la famille royale à partir du moment où règne les Trastamares. Donc il y a un certain flottement. Le Fernand Pérez de Guzmán lui-même, dans ses générations et Semblanza, ça a été rappelé, regrette vivement que l'histoire des lignages et leurs origines ne soient généralement pas connues, ou pas connues avec certitude en tous les cas, en Castille, faute de documents et faute, dit-il, d'intérêt pour l'histoire. Donc l'histoire des lignages castillans, quand on arrive à la saisir dans les chroniques, contient une bonne part de reconstruction imaginaire. C'est particulièrement vrai, ça a été déjà évoqué, en ce qui concerne l'origine des lignages. Dans les chroniques qui s'intéressent spécialement au monde des lignages, c'est-à-dire tout particulièrement ces chroniques particulières qu'on appelle maintenant plus volontiers des biographies chevaleresques, dénomination unique qui s'applique à des textes qui sont souvent très divers, l'auteur se voit dans l'obligation, en quelque sorte, de reconstruire le lignage de son héros. Alors, quand ce héros, c'est Álvaro de Luna, bien qu'il soit bâtard, se rattache à un lignage fameux dans tous les royaumes péninsulaires, neveu d'un archevêque de Tolède, petit neveu d'un pape, la tâche n'est pas trop difficile, en l'occurrence. En revanche, les auteurs de la biographie de Don Pedro Niño, El Victorial, donc Gutiérrez Díaz de Gámez, ou de la biografie d'Alonso de Monroy, Historia de los Fechos d'Alonso de Monroy, d'Alonso Maldonado, doivent forcer, en quelque sorte, le silence des documents des siècles antérieurs pour proposer un lignage digne de leur héros et, en même temps, pour justifier la relative obscurité des origines individuelles, disons, des héros. C'est-à-dire proposer une histoire d'un lignage qui, finalement, est en décadence et que le héros va relever. C'est cette obscurité, très souvent, de la naissance de gens comme Alonso de Monroy ou Don Pedro Niño, qui oblige à projeter dans un passé lointain et évidemment incontrôlable la gloire d'une origine illustre. Dans les deux cas que je cite, c'est un modèle qu'on retrouve chez d'autres familles nobles de toute façon, on propose comme point de départ du lignage un prince étranger. Alors en l'occurrence c'est un prince français dans les deux cas, puisque Don Pedro Niño est supposé descendre d'un prince de la maison d'Anjou, et Alonso de Monroy, d'un frère du roi de France. Donc un prince étranger de glorieuse mémoire qui est arrivé en Castille dans des temps anciens. Pour ce qui est de Don Pedro Niño, on parle de Antigua Edad, sans autre précision, l'auteur parle de cela. Pour Alonso de Monroy, l'arrivée du frère du roi de France aurait eu lieu au temps du roi Pélage, évidemment pour combattre les musulmans à chaque fois. Le reste de l'histoire du lignage doit, comme je l'ai dit, justifier l'obscurité des origines personnelles des deux héros, ce qui suppose une décadence rapide ou progressive. Dans les deux cas, il me semble que l'histoire de cette décadence du lignage est liée d'une façon ou d'une autre, inspirée, disons, de l'histoire de la famille royale de Castille et de l'épisode traumatique de l'assassinat de Pierre Ier par son demi-frère. Pour être un peu plus précis, Gutiérrez Díaz, dans son Victorial et dans cette partie du Victorial qu'il appelle El Cuento de los Dos Reyes, insère l'histoire récente des Niño dans ce contexte national de guerre civile et de fratricide qui a caractérisé les années 1366-1369, et transforme en fait une forme de décadence en résultat de l'affirmation d'une vertu chevaleresque essentielle, la fidélité du grand-père de Pedro Niño à Pierre Ier, au-delà de la mort du souverain. Alonso Maldonado, lui, a une autre idée. Il calque, en quelque sorte, l'histoire du lignage des Monroy sur celui de la famille royale, dans un ton mineur, disons. À l'époque d'Henri II, le lignage des Monroy se voit renouvelé, en quelque sorte, par l'union de la dernière descendante de la famille, de la branche originale, avec un Français, dit-on, parent du roi de France, une fois de plus, et chambellan du roi de France, qui a toutes les chances d'être en fait un des aventuriers des compagnies blanches qui sont arrivés pour combattre Pierre Ier avec Henri II et dont certains ont fait souche effectivement en Castille, comme Arnaud Solier par exemple, ou le bâtard de Béarn, il y en a quelques-uns. Et je disais qu'il y avait calque de l'histoire du lignage des Monroy avec le lignage royal, en somme, c'est que, d'autre part, à l'époque du roi Henri III, El Doliente, le petit-fils, non, l'arrière-petit-fils, il faut s'y retrouver, de ce Français qui était arrivé donc quelques années auparavant, va se marier, nous dit l'auteur, avec la fille de l'homme qui a assassiné le fils du Français. C'est-à-dire qu'on retrouve, d'une certaine façon, la reproduction des noces royales entre Henri III et Catherine de Lancastre, effectivement, mais à un degré inférieur. Les deux cas que je cite constituent un cas extrême, disons, dans la reconstruction de l'histoire d'un lignage. Mais il faut reconnaître que beaucoup des familles de la haute noblesse du XVe siècle ont de l'histoire de leur lignage une connaissance très relative, dans la mesure où elles sont souvent issues finalement de groupes, enfin de familles nobiliaires d'importance, disons, régionale, voire locale, de lignages de petite noblesse, en somme, ou de branches secondaires des anciens lignages de la noblesse, ou de bâtards, donc il est difficile de célébrer, même si bon, la bâtardise a une valeur relativement ambiguë, finalement, comme elle l'a dans les histoires de type arthurienne, qui forment une grande partie de la culture de ces nobles, et où effectivement les bâtards peuvent être ce qu'il y a de meilleur ou ce qu'il y a de pire. De là le fait que les ancêtres illustres mais un peu fantasmatiques sont multitudes parmi les lignages castillans. C'est très variable. Les Manriquet se présentent comme les descendants du comte Manriquet de Lara, ce qui leur permet de se rattacher à un ancien lignage parmi les plus prestigieux des siècles antérieurs. Les Mendoza se disent descendants du Cid. Et on sait que Pedro González de Mendoza, le grand cardinal, appellera un de ses fils Rodrigo Díaz et le fera comte du Cid, enfin comte del Cid, pour pouvoir justement rappeler ses origines glorieuses du lignage de Mendoza. Les Guzman se rattachent bien sûr déjà à la figure du célèbre et un peu mystérieux Guzman el Bueno au début du XIVe siècle, et au-delà de cette figure, se donnent des origines, alors qu'ils sont un peu diverses. Il y a plusieurs légendes lignagères chez les Guzman, pardon. L'une que reprend Fernand Pérez des Guzman dans ses Generaciones y Semblanzas, font de cette famille, de ce lignage, des descendants d'un breton. Et Fernand Pérez, tout en se lamentant de l'absence de documents dignes de foi, vraiment pouvant prouver l'exactitude de cette tradition familiale, apporte des arguments à cette origine bretonne, qui en réalité se contredisent plutôt l'un l'autre, mais enfin ça il n'en a pas conscience. C'est que d'une part, les armes des Guzman comportent des hermines, et pour Fernand Pérez des Guzman, évidemment, les hermines, c'est breton par excellence, même si en réalité, les hermines ne sont bretonnes que depuis le XIIIe siècle, et depuis l'époque du plus français, peut-être, de tous les ducs de Bretagne, puisque c'était un capétien, Pierre Mauclair, les hermines faisaient partie de ses armoiries personnelles, et c'est lui qui en a fait don, en quelque sorte, à la Bretagne. Mais donc, il y a ces hermines, et puis, dit Fernand Pérez, en breton, Guzman veut dire homme bon, enfin, hombre bueno. Sauf que, évidemment, Guzman, ça n'est pas du breton, c'est de l'anglais. Donc, il y a contradiction, en l'occurrence. Oui, bien sûr. Hombre bueno, en breton, se dirait den mat, ou si on donne à bueno le sens de courageux, den mat. Et si on donne à bueno le sens de courageux, enfin, comme on peut l'avoir bon, aussi en français à l'époque, ça donnerait alors là quelque chose qui ne peut pas être un nom, ce serait den kalonek. Donc on est assez loin du good man. Mais de toute façon, chez les Guzman circule une autre tradition qui se rattache à la thèse gothique qui est très à la mode un peu dans toute la noblesse castillane de l'époque et qui veut qu'en fait Guzman signifie l'homme go. Mais donc tous les lignages s'efforcent de se trouver des ancêtres. Un ancêtre glorieux et une suite ininterrompue, bien entendu, de descendants formant ce qui est digne d'être appelé un lignage. Parmi les héros des biographies chevaleresques, le seul qui peut difficilement se dire descendant d'un lignage, mais là je parle sous contrôle de Michel Garcia, c'est Miguel Lucas de Iranzo, et ses origines. Alors, comment s'y retrouver dans les lignages, dans les chroniques castillanes, c'est tout un problème, effectivement. D'abord parce qu'on a l'impression, enfin, ça c'est. Quand on s'intéresse à une famille particulière, je ne dis même pas un lignage, mais une famille particulière de la noblesse castillane, et qu'on commence à essayer d'en dresser un tableau généalogique, on a l'impression qu'effectivement de tirer un fil et de se retrouver au bout du compte avec la totalité de la noblesse castillane représentée, étant donné que effectivement tous ces nobles sont alliés de famille d'une façon ou d'une autre très souvent. Joseph Pérez, il y a des années de cela, pour une période qui est postérieure à celle qui nous intéresse, avait rappelé que beaucoup des chefs comuneros étaient en fait des alliés de famille, en particulier autour de la famille de Mendoza. Même si, évidemment, cela ne signifie nullement qu'il y ait eu une action concertée entre ces chefs comuneros. De la même façon, les luttes du règne d'Henri IV, même si on ne peut pas les limiter, bien entendu, à un conflit entre lignages, s'expliquent en grande partie par la lutte d'influence qui oppose deux lignages particulièrement puissants, celui des Mendoza, dont j'ai déjà parlé, les descendants du Cid, celui non moins puissant, dans les faits, des Acuña, lignage d'origine portugaise, mais qui, à l'époque d'Henri IV, réunit des gens très divers, je dirais, depuis l'archevêque Alonso Carrillo, qui donc s'appelle en fait Alonso Carrillo de Acuña, jusqu'au marquis de Villena, Juan Pacheco, qui se rattache lui aussi au lignage acuñien. Donc à partir de ce noyau central, en quelque sorte, des deux grands lignages, Mendoza et Acuña, on peut pratiquement redistribuer tous les protagonistes des luttes de cette époque à partir des alliances matrimoniales qui les relient à l'un ou l'autre des deux lignages. Le duc d'Albuquerque, par exemple, Don Beltrán de la Cueva, est uni par voie de mariage au lignage des Mendoza. Et c'est comme ça que deux lignages, finalement, peuvent apparaître dans les chroniques comme les arbitres de la politique castillane pendant une bonne dizaine d'années. Alors c'est vrai que ce qui complique à mon sens un peu les choses, et ce sur quoi il peut être intéressant de se pencher, c'est que les chroniqueurs jonglent, sans les mélanger, c'est très clair visiblement dans leur esprit, entre les concepts de lignage, de famille, de maison, qui ne renvoient évidemment pas aux mêmes choses. On ne peut pas confondre une famille et un lignage. Un lignage, c'est plus vaste et ça peut englober plusieurs familles, en fait, de la noblesse. Quant à la maison, quand on voit la longue liste des membres de la maison du connétable Alvaro de Luna qui sont cités à la fin de sa chronique, il est clair que cela renvoie plutôt à une notion de clientèle, finalement. Enfin, ayant criados, enfin, donc les gens qui ont été élevés aussi à la maison. Mais, donc il y a une distinction à apporter très certainement entre les lignages des familles et des maisons. Et ce qui me gêne un peu pour tout dire, c'est que très souvent je suis amené, moi, je me retrouve à m'intéresser, disons, à des conflits qui se situent non pas à l'intérieur de lignages, mais à l'intérieur simplement de familles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des membres de familles séparées qui s'opposent, mais en réalité des gens très proches par la parenté, de frères, un frère, un cousin, c'est extrêmement fréquent. Donc on ne sort pas vraiment du niveau de la famille. Pour donner un ou deux exemples de ces luttes qui prouvent qu'il n'y a pas de solidarité de lignage, puisqu'il n'y a même pas de solidarité à l'intérieur des familles de la noblesse très souvent, je citerai par exemple l'opposition, disons, qui existe à l'époque des Comunidades, une fois de plus, entre Diego Osorio et le fameux évêque comunero Antonio de Acuña, Diego de Osorio étant, lui, corregidor de Burgos. Donc on sait que Diego de Osorio a réussi à empêcher, finalement, en le trompant, qu'Antonio de Acuña entre dans Burgos, en lui faisant croire qu'il y couperait de grands dangers, ce qui était de toute façon écarté. Ce qu'on oublie parfois, c'est que Diego de Osorio et Antonio de Acuña sont frères, parce que ce sont les deux fils de l'évêque Luis de Acuña y Osorio. L'un pays un nom, l'autre non. Donc dans ce cas précis, il n'y a pas de solidarité entre frères. Cette situation, je le disais, se répète dans de nombreuses familles de la noblesse castillane. Je reviens aux Monroy, par exemple, et les Monroy se disputent l'héritage familial, et on voit entrer dans un conflit violent et armé Alonso de Monroy, donc, qui est le héros de la biographie Jovellerès que je parlais, son frère Hernando et un autre Hernando de Monroy qui est leur cousin. Donc l'un, le frère est seigneur de Bilbis et le cousin, lui, est seigneur de Monroy. C'est peut-être pour cette raison la possession finalement de ce qui est le berceau de la famille ou du lignage, un peu plus imaginé, que Alonso de Monroy s'allie avec son cousin plutôt qu'avec son frère lorsqu'il lui arrive de devoir faire face alors aux attaques, cette fois d'un lignage totalement extérieur, qui est les Solis, qui sont les ennemis des Monroy par excellence. Donc on a un épisode où Alonso de Monroy et son cousin se réunissent pour lutter contre les Solis et puis ensuite se séparent de nouveau. Et l'exclamation avec laquelle le cousin en question se sépare d'Alonso de Monroy ne laisse aucun doute sur le côté très ponctuel de l'alliance qui vient de prendre fin, puisqu'il se quitte sur les mots suivants. « Señor primo, tan maroma como de antes. » Ce qui me semble indiquer le retour à une opposition comparable à celle des musulmans et des chrétiens. Dans le lignage des Acuña, oui, je dis bien, on retrouve un peu la même situation. Là encore, sans avoir besoin d'aller voir vraiment la totalité du lignage, déjà parmi les enfants de Lope Vázquez de Acuña, lorsque Alonso Carrillo, qui est l'un de ses enfants, justement, l'archevêque de Tolède, donc, se rebelle contre Isabelle et Ferdinand, la famille se divise. Ainsi, tandis que Lope de Acuña suit la voie de son frère et de son cousin, le deuxième marquis de Villena, fils de Juan Pacheco, et se soulève avec la forteresse de Huete, dont il est le gouverneur, on voit Pedro de Acuña, qui lui est comte de Buendía, mais le frère des deux autres, s'empresser de faire savoir qu'il a choisi la fidélité aux souverains Isabelle et Ferdinand, et qui n'a rien à voir avec les menées du marquis de Villena et d'Alonso Carrillo. Donc il semble bien, en l'occurrence, que la peur de perdre des possessions est plus forte que quelconque solidarité familiale, même sans parler de solidarité lignagère. En fait, et je reviens de cette façon un petit peu à l'idée qui était mon idée de départ, l'existence des lignages ne se perçoit guère dans les chroniques que lorsqu'ils s'opposent clairement les uns aux autres, finalement, comme on a vu les Solis et les Monroy il y a un instant. C'est vrai que quand on voit les Estuniga et les Álvarez et Toledo se disputer la prééminence en Extrémadure, les Guzmán et les Ponce de León se battre pour le contrôle de ces villes et de sa région, là on a bien l'impression qu'il y a des lignages clairement définis, qui sont en quelque sorte des armes de combat efficaces, dans des luttes qui sont militaires et économiques. Alors, un point que je voulais soulever un petit peu avant, que j'ai oublié, mais qui renvoie un peu à la réalité des familles comme la famille Acuña, par exemple, c'est l'onomastique, disons, à l'intérieur des familles et des lignages, qui me semble devoir aussi être regardé de plus près. D'une part, on voit que cette onomastique évolue au cours des siècles, avec l'apparition parfois de nouveaux patronymes, disons, que je qualifierais de mixtes, puisqu'ils utilisent les anciens patronymes de deux lignages différents, qui eux n'ont pas forcément disparu pour autant. On voit au XIVe siècle, à côté des Rojas et des Ladrones de Guevara, une famille, je dirais peut-être pas un lignage, effectivement, mais une famille, Ladrón de Rojas, On a toujours à côté du lignage qui est celui des Rojas, l'apparition des Rojas de Sandoval, qui sont les ancêtres, en l'occurrence, du duc de Lerma, qui donc sont issus de l'alliance entre des membres du lignage, enfin, un membre du lignage des Rojas et un membre du lignage de Sandoval. Les Carrillo et les Albornoz donnent effectivement une famille Carrillo de Albornoz. Et quand cette famille Carrillo de Albornoz s'allie avec les Acuña, on obtient les Carrillo de Acuña. C'est quelque chose qui apparaît très clairement, ça, au niveau donc, des lignages ou des familles. Au niveau des individus, dans une même famille, on a aussi des variations. Traditionnellement, on dit que les enfants, les aînés, disons, prennent le nom de leur père parce qu'ils reçoivent leur héritage de celui-ci, tandis que les plus jeunes prennent souvent le nom de leur mère parce qu'ils reçoivent leur héritage de cette dernière et que donc ils veulent faire perdurer la mémoire du lignage en question. Bon, parfois, la situation est encore plus compliquée. Parmi les enfants de Lope Vázquez et Acuña, on a donc une partie des enfants qui s'appellent Acuña, une partie Carrillo, et puis on a une fille qui elle s'appelle María Sarmiento. Sans que d'ailleurs j'ai bien compris pourquoi, mais avant son mariage, bien sûr. Mais donc on a là trois noms qui se partagent en quelque sorte les enfants d'un même homme et d'un même couple. Un cas intéressant, parce que c'est vraiment un cas à part dans le Castille du XVe siècle, c'est celui d'un homme qui rejette toute cette logique des lignages, au point de rejeter aussi l'idée de primogéniture, de reprendre l'héritage de son père. C'est Rodrigo Sánchez de Arévalo, qui est évêque, référendaire du pape, gouverneur du château Saint-Ange à Rome, et évêque de différentes villes de Castille où il ne mettra jamais les pieds, qui explique effectivement, donc auteur aussi d'une chronique, enfin la chronique abrégée, disons, la Compendiosa Historia en latin, mais qui explique dans un autre ouvrage qu'il a subi la pression des parents de son père qui souhaitaient le voir reprendre le nom de ce dernier et assurer la pérennité du lignage en tant que fils aîné. Mais que lui a rejeté cette idée parce qu'il voulait être fidèle au vœu de sa mère qui souhaitait le voir entrer dans la carrière ecclésiastique, ce qu'il a fait. Et du coup, il a pris aussi le nom du lignage de sa mère. Sánchez de Arévalo, ce n'était pas le nom de son père, c'est le nom de sa mère. Et dans un autre texte, il explique que tous les malheurs du monde, ou presque, viennent de le fait que le fils aîné reçoit l'héritage des parents, il faudrait mieux une division de l'héritage entre tous les enfants. Cela éviterait des conflits comme ceux qu'on note au XVe siècle. Bon, lui, il ne pense pas tellement à la Castille en l'occurrence, il pense plutôt à d'autres régions d'Europe. Donc un monde des lignages qui est assez divisé, et pourtant, s'il n'existe pas de solidarité, je crois, au sein d'un lignage, au sein d'une famille, il existe quand même une conscience d'intérêt commun, disons, dans tous les lignages de la noblesse. Et cette conscience est ce qui explique une grande partie des actions des membres du groupe nobiliaire. Actions qui sont souvent donc violentes et tout à fait condamnables depuis le point de vue, disons, de ceux qui défendent le bien commun du royaume. Mais en dehors des périodes de crise violente, la conscience d'intérêt commun s'exprime surtout à travers la politique d'alliance matrimoniale de chaque lignage. Des alliances matrimoniales qui peuvent se faire dans un sens de renforcement de la cohérence du lignage, disons, c'est ce que font dans un premier temps par exemple les Rojas lorsque les membres des différentes branches du lignage se marient entre eux, pour conserver l'unité, en somme, des possessions du lignage, donc des noces endogamiques, mais qui renforcent la cohérence du lignage et la réunion de son patrimoine, ou bien des alliances avec d'autres lignages, soit parce que ceux-ci sont plus puissants et donc peuvent apporter un plus en matière de richesse ou puissance donc au lignage le plus faible, ou bien parce qu'ils sont complémentaires. Et là, je pense encore aux Rojas, lorsque, au XVe siècle, il s'allie avec le lignage des Sarmiento, qui sont enfin, dans leur branche de Burgos, qui est la branche des comtes de Salinas, pour s'assurer en fait le monopole du commerce du sel dans la région burgalaise, dans la mesure où les deux lignages des Rojas et des Sarmiento possèdent des salines, et dans la mesure où les Sarmiento, en l'occurrence, contrôlent les chemins les plus importants de la région burgalaise. Les Rojas ont donc tout intérêt à s'allier avec eux, ce qu'ils font assez tardivement dans le 15e siècle d'ailleurs. Bon, voilà tout ce que j'avais à dire. Je dis que je n'avais pas finalement grand-chose. Les chroniques ne sont sans doute pas les meilleurs outils, disons, pour pouvoir proposer quelque chose de précis sur ce qu'est un lignage nobiliaire au XVe siècle. Surtout pas les chroniques, disons, de type général ou les chroniques de type royal. En fait, ce que je regrette, mais faute de temps et faute d'avoir les textes sous la main quand j'en avais besoin, c'est de ne pas avoir pu interroger avec plus de précision et de profondeur que ce que j'ai pu faire ici, des textes qui sont peut-être un peu marginaux par rapport aux grandes chroniques, mais qui sont ces biographies chevaleresques dont j'ai quand même rapidement parlé, et aussi ce que Benito Sanchez Alonso appelait les biographies collectives, c'est-à-dire les textes de Ferran Pérez de Guzmán ou de Hernando del Pulgar, qui proposent des portraits de nobles, et qui, surtout pour ceux que propose Ferran Pérez de Guzmán, des portraits qui prennent en compte l'aspect, disons, lignagé, puisque les portraits que propose Ferran Pérez de Guzmán ont deux dimensions, en quelque sorte, une dimension verticale, on rappelle l'origine du personnage considéré, une dimension plus horizontale qui évoque les vertus individuelles du personnage en question. Même si, en l'occurrence, très souvent, les informations que Ferran Pérez de Guzmán peut apporter sur les lignages sont réduites, se réduisent le plus souvent à l'indication du solar de ce lignage, c'est-à-dire de ses origines géographiques, du lieu où il est né. Bon, voilà.